Deutsche Welle, Magazine Environnement.
Quand vous prenez le lac, c'est l'assèchement. Maintenant, autour du lac, vous avez donc l'assablement. Il y a deux phénomènes avec la désertification.
Au cœur de la zone sahélienne, aux confins du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Nigeria, le lac Tchad fait vivre plus de 30 millions de personnes. Une ressource en eau douce menacée de disparition après des décennies de sécheresse. Une réunion dans le but de lancer un projet de préservation de cette source d'eau et de la région soutenue par l'UNESCO a lieu à Abuja au Nigeria. L'occasion pour nous de revenir sur la situation de cette réserve d'eau douce. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosivi Tiassou au micro.
Le Tchad est le 186e pays qui subit de plein fouet les effets du changement climatique. C'est la zone où le hotspot est très 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 élevé. Maintenant, si on veut entrer dans les effets collatéraux, vous conviendrez avec moi que le lac Tchad, c'est le cas le plus frappant. De 25 000 km² à 1960, aujourd'hui on est à 2500.
Généralement, les pâturages deviennent rares, donc les zones de pâturage se rétrécissent fortement. Donc ce qui fait que les éleveurs ne peuvent pas rester dans ces zones-là.
Le lac Tchad est le vestige d'une mer intérieure qui, il y a plusieurs millénaires, devait couvrir 340 000 km². En un demi-siècle, la pluviométrie a diminué et la surface du lac s'est réduite de plus de 90%, ce qui a eu un impact considérable sur les écosystèmes et l'économie de cette région. Son alimentation en eau était principalement assurée par des cours d'eau aujourd'hui asséchés, issus des massifs montagneux de l'Aïe, du Tibesti ou encore de l'Enedi. Et pour Julien Koulan-Rabaye-Kunja, directeur de l'environnement au Tchad, cet unique réservoir d'eau douce, à cheval entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria et son pays, est menacé de disparition.
Quand vous prenez le lac Tchad, vous allez trouver les scientifiques qui ont leur point de vue, vous allez trouver les techniciens qui ont leur point de vue, mais le phénomène de lac Tchad, quand vous prenez le lac, c'est l'assèchement. Maintenant, autour du lac, vous avez donc l'assablement. Il y a deux phénomènes avec la désertification. Il faut que ça soit clair. L'assèchement, c'est dû donc à cette forte évapotranspiration qu'il y a au niveau de la zone, ce qui assèche totalement le peu de quantité d'eau que le lac reçoit. Et autour du lac, vous avez donc une zone qui est désertique et donc il y a l'ensablement qui vient renforcer donc le dispositif de cet assèchement-là.
Depuis 1973, la surface du lac a été divisée par 8. Sa taille varie suivant l'importance des pluies et des crues des fleuves Charrier et Logone, alimentés depuis la République centrafricaine et le Cameroun. Comme pour la mer d'Aral, l'approvisionnement naturel en eau ne cesse de diminuer en raison d'un déficit de pluie aggravé par les changements climatiques et d'une irrigation en forte hausse.
La dernière étude menée a montré effectivement que le Tchad est le 186e pays qui subit de plein fouet les effets du changement climatique. C'est la zone où le hotspot est très 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 élevé. Maintenant, si on veut entrer dans les effets collatéraux, vous conviendrez avec moi que le lac Tchad, c'est le cas le plus frappant. De 25 000 km² à 1960, aujourd'hui on est à 2500. Vous avez vu cet assèchement, démontre déjà que les zones les plus touchées sont donc le lac Tchad qui illustre donc un cas le plus précis. Et nous avons donc ce phénomène-là qui oblige la plupart des agro-passeurs à migrer du nord vers le sud pour chercher des terres fertiles. Et du coup, autour de ça, il y a donc des conflits que nous gérons. Il y a donc le problème de pâturage qui se pose. Donc, grosso modo, on ressent les changements climatiques, même par un citoyen lambda aujourd'hui. D'ici les quelques années, le phénomène va s'intensifier et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a des mesures drastiques à le prendre très rapidement pour mettre la population à l'abri.
Les conséquences de l'assèchement du lac Tchad sont nombreuses et les paysans sont les premières victimes, de même que les animaux, puisque l'attractivité du lac est liée à la disponibilité de l'eau ainsi qu'à la diversité et à l'abondance des ressources. Ahmad Hassan Moussa est le coordonnateur du projet d'appui au pastoralisme au Tchad.
Généralement, les pâturages deviennent rares, donc les zones de pâturage se rétrécissent fortement. Et surtout que dans certaines zones, même s'il y a des pâturages, il n'y a pas d'eau. Donc ce qui fait que les éleveurs ne peuvent pas rester dans ces zones-là. Par conséquent, pour répondre à ces situations de crise naturelle, les éleveurs adoptent la transhumance. Donc la transhumance, c'est la mobilité. Ils bougent des zones les plus contrastes pour aller dans les zones où il y a assez de pâturage et assez d'eau. L'exploitation en termes de capacité de charge de ces pâturages devient insuffisante. Et cette exploitation insuffisante par rapport aux capacités de charge fait que les éleveurs font de la transhumance. Donc ils bougent pour aller dans les zones plus clémentes au sud du pays. Et ces zones sont des zones agricoles. Donc quand ils viennent dans les zones agricoles, pendant que les agriculteurs n'ont pas encore cultivé leurs champs, il y a ces risques de divagation. Donc la divagation des champs fait que très souvent il y a des conflits agriculteurs-éleveurs. Et ces conflits sont très difficilement gérés car ça peut facilement provoquer des morts, des batailles rangées et ça donne l'occasion à une complexité d'événements car ça peut se transformer aussi à des problèmes communautaires entre divers acteurs, que ce soit les communautés arabes qui sont plus souvent les éleveurs et les communautés du sud qui sont pour la plupart des agriculteurs.
Au fur et à mesure de la disparition du lac et du manque de nourriture que cela entraîne, la région est devenue le foyer des nombreux crimes sécuritaires, notamment celles entretenues par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Petits agriculteurs et pêcheurs ont rapidement nourri les rangs des combattants ou des milices, faisant de ce conflit un des plus meurtriers au monde. Mais certains ont toujours évité de rejoindre les groupes armés. Les femmes, par exemple, ont développé une capacité de résilience face à ce fléau considéré comme l'une des conséquences du changement climatique. Néoudamadi Naila Clarisse est la présidente nationale de la cellule de liaison des associations féminines au Tchad.
Avec les expériences et les initiatives que nous mettons en place pour répondre à ces obstacles-là qui aujourd'hui réduisent les activités autour du lac Tchad, parce que en priorité les populations riveraines du lac Tchad, c'est des populations cosmopolites d'abord et puis qui mènent plusieurs activités, mais en priorité l'activité de pêche. Et aujourd'hui avec le régressement des eaux, il y a des conflits latents. Et surtout pour les femmes, c'est un risque, donc elles sont en retrait. Et nous pensons qu'avec les petites initiatives que nous sommes en train de mener, elles pourront se convertir et avoir une capacité de résilience.
Et parce que et surtout dans cette région, il y a des femmes qui ont comme profession ou bien travail la récupération des terres dégradées et qui remettent ces terres à la disposition des hommes.
Oui, c'est effectivement à ce niveau que nous voudrions que dorénavant les femmes accèdent de la même manière et de manière égalitaire aux moyens de production. Donc c'est de veiller à ce qu'elles aient accès à la terre fertile, de veiller à ce que leurs activités puissent générer des résultats satisfaisants et qui puissent aider à améliorer la condition de vie de leur ménage en premier et aussi des populations en général.
Des projets très ambitieux pour sauver le lac Tchad existent, mais ils sont souvent contestés. Aujourd'hui, ce sont les chefs d'État du bassin du lac qui se prennent à rêver d'un méga projet incertain et controversé. Le transfert des eaux du fleuve Oubangui en RDC vers le lac via un canal créé pour l'occasion. Cela va coûter très cher, mais c'est indispensable selon Julien Koulan-Rambaye Kunja, directeur de l'environnement au Tchad.
Nous sommes dans une gestion transfrontalière et vous savez que c'est des projets transfrontaliers. Toujours est-il que les effets du changement climatique, ce n'est pas seulement au Tchad, ça se ressent chez eux aussi. Mais je pense que les études de faisabilité ont été réalisées. Quand bien même il y a ces problèmes politiques qui restent au niveau de RDC, comme vous l'avez dit, mais nous pensons que le contexte actuel peut amener les gens très rapidement à s'y inscrire pour que le projet aille devant. Parce que personne ne peut accepter qu'un lac qui constitue une référence puisse perdre ses eaux et que tout autour de ça, avec des milliers de personnes qu'on a pu vivre cette situation. Ce qu'on demande dans le transfert de l'eau de l'Oubangui, c'est une infime quantité d'eau. Quand vous regardez le projet, c'est une infime quantité d'eau. Quand il y aura donc débordement, il suffit tout simplement de le faire transférer. On ne demande pas une grande quantité d'eau.
Mais les détracteurs de ce projet parlent, eux, ou bien pointent plutôt du doigt l'aspect ou bien le côté budgétivore de ce projet.
Non, du moment où l'étude de faisabilité a été déjà réalisée, avec les deux options, aujourd'hui nous avons une des options qui est la plus propice. Nous sommes dans le contexte du changement climatique, comme vous l'avez dit. Nous avons assez des institutions climatiques qui financent ces gens, qui doivent financer ce genre de projet. On peut, ensemble, si les pays sont d'accord, monter un bon projet dans le transfert là, et voir le fonds vert, par exemple, climat, puisque le lac Tchad, tout au long, quand vous prenez, c'est toute une population qui subit. Donc moi, je pense qu'en termes de financement, j'aurais souhaité que les gens ne se basent pas beaucoup plus sur ça, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment assez de fonds climatiques qui peuvent... C'est une mesure d'adaptation. Le transfert de l'eau, c'est une mesure d'adaptation. Et vous savez que l'Afrique a opté toujours pour l'adaptation. Et donc, je ne vois pas en quoi on peut déjà s'inquiéter en termes de finances, puisque nous avons des fonds climatiques.
Mais en attendant, le Tchad a de son côté prévu un investissement important contenu dans son plan national d'investissement en vue de venir en aide aux populations de la région du lac Tchad.
Dans le plan de PND qu'il y a, si vous regardez bien, dans les projets de l'environnement, il y a 7 projets, dont un de projets est la sauvegarde du lac Tchad. Nous avons 7 projets. Nous avons un projet qui a trait aux gestions de ressources naturelles. Nous avons un deuxième projet qui a trait à une politique de lutte contre les changements climatiques et les risques de catastrophes naturelles. Nous avons un troisième projet qui a trait donc au reboisement intensif et la reconstitution des écosystèmes forestiers du Tchad. Nous avons un projet qui a trait le plus important, comme je vous l'avais dit, c'est la sauvegarde du lac Tchad avec l'idée de transfert de l'eau de Lubangui.
Julien Koularamba Ikundia, directeur de l'environnement au Tchad. Comment sauver le lac Tchad et sa région, c'est le thème développé cette semaine dans notre magazine. Kossi Vitiassou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.
Na le calo fundo, na le calo lando, eh. Elo con la kisa tena lindio, na bobe.